Les restrictions dues à la pandémie du Covid-19 se maintiennent en ce début du mois de mars 2021. Je produis mon programme depuis mon domicile à Buenos Aires dans le but de maintenir le lien avec nos auditeurs de RAE en langue française. Ainsi, qui vous parle, Eric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles en attendant le retour au studio de Radio Nationale Argentine. Maintenant, place à l'actualité. Les titres. Un an du premier cas de coronavirus en Argentine. Au début de l'année parlementaire, le président Alberto Fernández a annoncé qu'il allait dénoncer devant les tribunaux l'accord de 2018 avec le FMI. Brésil, des secrétaires à la santé réclament des mesures alors que l'effondrement du système de santé est imminent. Chili, l'ONU met en garde contre les abus policiers dans la répression des manifestations. Malgré les restrictions dues au coronavirus, 12 millions de touristes ont voyagé vers les destinations argentines cet été. Sport, à 19 ans, un jeune remporte le tournoi ATP à Córdoba et les médias le qualifient l'espoir du tennis argentin. Le mercredi 3 mars a marqué l'anniversaire de la confirmation du premier cas de coronavirus en Argentine. Il y a exactement un an, le gouvernement a annoncé qu'un homme de 43 ans, revenu d'Italie, était le premier patient local atteint de Covid-19 et qu'il était hospitalisé dans une clinique de Buenos Aires. Depuis lors, plus de 2 millions de personnes ont contracté le virus, dont 90% se sont rétablies, alors que la pandémie a fait plus de 52 000 morts dans le pays. Par ailleurs, le vaccin contre le coronavirus Sputnik V sera produit en Argentine par le laboratoire local Richmond. Cette annonce a été faite par la société pharmaceutique après avoir conclu un accord avec le fonds d'investissement direct russe. Des sources d'entreprises argentines ont précisé qu'il est dans une phase préliminaire et qu'il manque encore pour avoir une production locale. Dans ce contexte, un nouveau vol est arrivé cette semaine en provenance de Moscou avec plus de 700 000 vaccins Sputnik V, la plupart pour la première dose. Avec cette livraison, le pays compte 4 millions de vaccins, dont ceux de Covishield et de Sinopharm. L'ambassadeur russe en Argentine, Dmitri Feoktistov, a assuré que Moscou remplira les engagements pris avec Buenos Aires et enverra au cours des 6 prochains mois les doses nécessaires pour vacciner 15 millions d'Argentins. D'autre part, en mai, le pays recevra près de 2 millions de doses de plus dans le cadre du programme COVAX de l'Organisation mondiale de la santé. Selon les données officielles, plus de 1,1 million de personnes ont été vaccinées à ce jour en Argentine, dont 302 000 ont déjà reçu les deux doses. Le ministre de l'Éducation, Nicolas Trotta, a déclaré qu'il s'attendait à ce que tous les enseignants soient vaccinés d'ici 3 mois. Ces déclarations arrivent au moment où les écoles rouvrent dans plusieurs provinces, dont la plus peuplée, Buenos Aires. Entre-temps, le gouvernement de la ville de Buenos Aires a été dénoncé devant les tribunaux pour avoir prétendument privatisé la campagne de vaccination suite à la décision de fournir des doses au système de santé privé. Mais les autorités de la capitale assurent qu'il s'agit d'une décision logistique et que les bénéficiaires des plans payés n'auront pas la priorité sur ceux qui sont traités dans les centres de santé de l'État. Enfin, le gouvernement national a prolongé la fermeture des frontières avec les pays voisins jusqu'au 12 mars. L'interdiction d'entrée des vols en provenance du Royaume-Uni sera également maintenue jusqu'à cette date afin de freiner l'arrivée du variant britannique du coronavirus. Le gouvernement argentin va déposer une plainte pénale pour la négociation d'un prêt du Fonds monétaire international en 2018 de plus de 50 milliards de dollars. Le président Alberto Fernández l'a annoncé lundi alors qu'il inaugurait l'année parlementaire au Congrès national. Selon a annoncé le président, la majeure partie de l'argent a fui à l'étranger dans ce qu'il a décrit comme le plus grand détournement de fonds publics de l'histoire argentine. Fernández a déclaré que le FMI a accordé le prêt au gouvernement de son prédécesseur, Mauricio Macri, pour l'aider à se faire réélire aux élections de 2019 qu'il a de toute façon perdues. Dans son discours à l'Assemblée législative, le chef de l'État a également averti que la pandémie de coronavirus n'a pas été résolue et il a exprimé ses condoléances pour les plus de 52 000 décès dans le pays. En outre, il a souligné que le système de santé ne s'est pas effondré en 2020 et que tous ceux qui ont besoin d'une assistance médicale peuvent la recevoir. Entre-temps, il a souligné que son administration a agi rapidement face au scandale des vaccinations des fonctionnaires et des dirigeants politiques, ce qu'on connaît comme la vaccination VIP. Fernandez a reconnu que demander à l'ancien ministre de la Santé, Ginés González García, de démissionner avait été une décision personnellement douloureuse mais nécessaire. Le président a également anticipé des projets en matière judiciaire, puisque, selon lui, ce pouvoir de l'État semble vivre en marge du système républicain. Entre autres plaintes, le président a insisté sur l'utilisation des tribunaux pour attaquer les dirigeants politiques, le lawfare, dont l'ancienne présidente et actuelle vice-présidente, Cristina Fernández de Kirchner, dénonce être victime. L'opposition, quant à elle, a affirmé que les initiatives annoncées en matière de justice font partie d'un plan visant à obtenir une impunité pour les personnes accusées de corruption, comme Fernández de Kirchner. D'autre part, Alberto Fernández a également anticipé dans son discours des projets pour promouvoir l'utilisation et la production de véhicules électriques et pour favoriser la culture du cannabis médical. En outre, il a avancé une initiative pour ajuster les tarifs des services publics en fonction des augmentations de salaire en pesos et non en fonction du prix international de l'énergie en dollars. Il a également exhorté le Congrès à réformer la taxe sur le revenu afin que moins de travailleurs salariés soient couverts par cet impôt qui est payé par 25% des contribuables argentins. Alberto Fernández s'est exprimé pendant près de 2 heures devant le Parlement pour inaugurer la 139e session législative. Ce discours annuel est l'équivalent de l'État de l'Union aux États-Unis, dans lequel les présidents font le bilan de leur administration et présentent les propositions pour l'année à venir. En cette année 2021, la cérémonie a été marquée par la pandémie de Covid-19 et seuls 90 législateurs y ont assisté. Les autres sénateurs et députés ont suivi la cérémonie par téléconférence, tout comme les invités. Le Brésil traverse le pire moment de la pandémie de coronavirus en raison de la propagation de la souche amazonienne. De plus, les épidémiologistes pensent que les infections se sont multipliées en raison des célébrations clandestines du carnaval. Cette semaine, les unités de soins intensifs des États du sud de Santa Catarina et de Minas Gerais ont atteint leur maximum, obligeant les autorités à transférer les patients. En outre, la capitale Brasilia a été soumise à un confinement strict pendant 2 semaines pour freiner la montée des contagions. Dans ce contexte, les secrétaires à la santé des 27 États brésiliens ont publié une lettre demandant au gouvernement du président Jair Bolsonaro des mesures plus sévères en raison de la pandémie. Ils réclament, entre autres, un couvre-feu nocturne, la suspension des cours à tous les niveaux et la fermeture des bars et des plages. Ils déplorent l'absence d'une direction nationale unifiée pour faire face à la crise sanitaire, étant donné le scepticisme manifeste de Bolsonaro quant à la gravité de la Covid-19. Avec 250 000 victimes, le Brésil est le pays qui compte le plus grand nombre de décès dus au coronavirus dans le monde, derrière les États-Unis. En ce qui concerne la souche amazonienne, les autorités britanniques tentent de trouver un cas confirmé au Royaume-Uni. Selon le ministre de la Santé, Matt Hancock, la personne dont le test s'est révélé positif n'a pas fourni ses coordonnées, ce qui fait qu'il n'a pas encore pu être identifié. Entre-temps, comme cela s'est produit au Pérou et en Argentine, un scandale sur la vaccination des privilégiés secoue l'Équateur. Le ministre équatorien de la Santé, Juan Carlos Ceballos, a démissionné sous l'accusation de fournir des vaccins aux membres de sa famille qui les ont reçus avant les groupes catalogués comme prioritaires. En Bolivie, les syndicats de médecins ont étendu leur grève pour protester contre une loi nationale de gestion de la pandémie promue par le gouvernement du président Luis Arce qui gèle les prix dans le système de santé privé et centralise les décisions en matière de soins de santé. Bien que les actions se poursuivent, les grévistes assurent que les soins aux patients de Covid sont garantis. La haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a dénoncé les abus policiers dans le pays dont elle a été présidente pendant 2 mandats, le Chili. La fonctionnaire de l'ONU a notamment évoqué la répression des manifestations de fin 2019, réclamant une plus grande égalité sociale et une réforme de la Constitution héritée de la dictature d'Augusto Pinochet. Dans un rapport envoyé au bureau du procureur chilien qui enquête sur les actions de la police, Bachelet assure qu'il y a eu de graves violations des droits de l'homme, tels qu'un usage excessif de la force, des détentions arbitraires, des tortures et des violences sexuelles au point de contrôle. En outre, elle a critiqué le gouvernement de son successeur, Sebastián Piñera, pour le manque de collaboration dans la clarification des faits. Bachelet a également déploré ce qu'elle appelait la militarisation des frontières et l'expulsion accélérée de nombreux migrants, en particulier des Vénézuéliens. Un porte-parole du gouvernement chilien s'est élevé contre ces accusations. et assurer que seul un tribunal et non une ancienne présidente peut déterminer si des violations des droits de l'homme ont été commises. Autre nouvelle de la région, le président du Salvador, Nayib Bukele, a remporté une victoire éclatante lors des élections de mi-mandat du 28 février. Le parti conservateur qu'il dirige aura plus de 2/3 des sièges et pour la première fois depuis des décennies, une force politique disposera d'une majorité absolue au Parlement. Pendant ce temps, le président de la République dominicaine, Luis Abinader, a annoncé la construction d'un mur le long de la frontière de 380 km avec son voisin Haïti, l'une des nations les plus pauvres de l'hémisphère. Il a déclaré que le mur sera terminé dans 2 ans et qu'il est destiné à freiner l'immigration illégale, le trafic de drogue et l'entrée de véhicules volés. D'autre part, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, et des États-Unis, Joe Biden, ont tenu leur premier dialogue par vidéoconférence. Des sources du gouvernement mexicain ont assuré qu'ils s'étaient mis d'accord sur un programme bilatéral sur l'immigration et la gestion de la pandémie Covid-19. La saison touristique d'été touche à sa fin et selon les hommes d'affaires du secteur, l'activité a diminué de 30% par rapport à l'année dernière en raison de la pandémie. Cependant, entre décembre et février, environ 22 millions de personnes ont voyagé vers des destinations dans le pays. Selon la Chambre argentine des moyennes entreprises, la CAME, la situation sanitaire se reflète dans l'augmentation du nombre de logements dans les zones rurales loin des foules. La durée moyenne des séjours a également été réduite et se situe autour de 4 jours par groupe familial. Comme bilan, des sources de l'industrie ont expliqué que l'impossibilité de se rendre en Uruguay, qui a fermé ses frontières aux touristes argentins, a stimulé l'activité sur la côte atlantique de l'Argentine. Dans son rapport, la CAME indique que les hommes d'affaires consultés ont décrit la saison comme mauvaise, mais ont dit qu'ils craignaient qu'elle soit encore pire. Elle recense également les destinations les plus visitées en été 2021. Mar del Plata et Villa Gesell dans la province de Buenos Aires, Gualeguaychú à Entre Ríos, Villa Carlos Paz à Córdoba et Bariloche en Patagonie. Sport. Le directeur technique de l'équipe nationale de football argentine, Lionel Scaloni, se prépare à affronter le Brésil et l'Uruguay lors des qualifications pour la Coupe du Monde de Qatar 2022. On sait que Lionel Messi fera partie des joueurs convoqués, mais on doute de la présence de Sergio Agüero en raison de la blessure dont il se remet à peine. L'Argentine accueillera l'Uruguay le 26 mars et 4 jours plus tard, elle se rendra au Brésil pour une nouvelle édition du derby sud-américain. Dans d'autres nouvelles sportives, un Argentin de 19 ans a remporté l'ATP de Córdoba après avoir battu en finale l'Espagnol Albert Ramos, tête de série. Juan Manuel Cerúndolo, de Buenos Aires, passera de la 335e à la 200e place mondiale. Les médias locaux ont déjà commencé à l'appeler la promesse du tennis argentin, comme il l'avait fait il y a 15 ans avec Juan Martín del Potro. Cent ans de Piazzolla, la révolution du tango. Il y a 100 ans, le 11 mars, naissait l'une des icônes musicales internationales du tango argentin, Astor Piazzolla. Mis en question à ses débuts, avant-gardiste et génie créatif, Piazzolla a réussi à positionner son style, à établir une école et à transcender le tango pour devenir un musicien fondamental du XXe siècle. Astor Pantaleón Piazzolla est né à Mar del Plata, mais il a passé son enfance et son adolescence à New York, dans le Lower East Side de Manhattan. Il s'y est imprégné du son de cette ville, qui était essentiellement du jazz, et c'est là aussi qu'il a appris à jouer du bandoneon, son inséparable instrument. Il est retourné en Argentine à l'âge de 16 ans et a commencé à jouer dans l'orchestre de tango d'Aníbal Troilo, où il a appris la plus importante tradition du tango. Plus tard, il a formé son propre ensemble. En fait, Astor voulait être un musicien classique, mais pensait que ses compositions n'étaient pas bonnes. Jusqu'à un séjour en France qui a servi à le consolider en tant que compositeur et d'accentuer sa confiance. Alors, le style Piazzolla est né. un label qui a suscité de vives critiques parmi les musiciens de tango argentin, jusqu'à ce que, finalement, le monde se rende à son art. Pour le célébrer, à partir de ce lundi, la plateforme Piazzolla sans officiel a été lancée par la fondation Astor Piazzolla. Des musiciens internationaux tels que Al Di Meola, Marty Friedman, Paquito de Rivera, Richard Galliano et Gary Barton participent aux hommages, aux salutations et à la musique. Piazzolla est l'auteur de 3500 œuvres, entre autres Libertango, Adios Nonino, Maria de Buenos Aires, Balada para un Loco, Las Cuatro Estaciones Porteñas et Oblivion. RAE, l'Argentine vers le monde, se joint à l'hommage avec Adios Nonino, peut-être l'œuvre la plus émouvante et la plus connue dans le monde entier, écrite à la mémoire de son père, Vicente Nonino Piazzolla, qui est mort lorsque le compositeur, déjà consacré, était à New York. Édition Fabien Panici, production et web Silvana Avellaneda, Julien Cortés, Présentation, Éric Domergue.
Che, tango, che, rosé usé, abusé et désabusé. Che, tango, che, che, tango, che, qui m'a dragué, qui m'a drogué, qui m'a croqué. Che, tango, che, che, tango, che, éliminé, éliminé, éliminé. Che, tango, che, che, tango, che, qui m'a vicié, qui m'a violé, qui m'a viré. Che, tango, che, fauché, fiché, esselé, déboussolé. Che, tango, che, qui me frôlait, qui m'a follé, mais qui m'a floué. Che, tango, che, tu m'as fait valdinguer, tu m'as fait déglinguer, tu m'as fait déshabiller, tu m'as fait dévergonder, tu m'as fait me pâmer, tu m'as fait me paumer, tu m'avais taillé, tu m'as badé, tu m'as baladé, et tu m'as laissé rétamé. Che, tango, che, rapé, tapé, lamé, cassé, décarcassé. Che, tango, che, che, tango, che, qui m'a gâté, qui m'a fêté, qui m'a jeté. Che, tango, che, bande dominée, bande orlotée, bande oignon, néant, néant, abandonné. Che, tango, che, che, tango, che, qui m'a saoulé, qui m'a roulé. Che, tango, che, tango câlin, tango éteint, tango destin. Che, tango, che, tango qui m'a grisé, brisé, mais qui m'a aimé. Che, tango, che.
Bienvenue aux amis d'actualité dx.com.ar pour une nouvelle édition de notre rubrique sur les ondes courtes et le web, une production de Arnaldo Slaen. Dans cet espace, nous vous proposerons quelques-unes des nouvelles les plus pertinentes du monde de la radiodiffusion. Cobunco est une petite ville située dans le département de Sapala, de la province de Neuquén, en Patagonie argentine. Elle est située au carrefour des routes provinciales 3 et 14, à 1,5 km du centre de Mariano Moreno, un autre village avec lequel elle est reliée. Entre les deux localités, on compte un peu plus de 3000 habitants. Grâce au soutien financier du gouvernement provincial, le comité de développement a pu permettre le fonctionnement d'une station de radio FM communautaire. Avec l'accès croissant aux moyens technologiques, cette petite ville située sur la rive droite du ruisseau Cobunco, à environ 50 km de Sapala, a pu compter il y a quelques jours sur des équipements modernes pour donner vie à cette nouvelle radio. C'est ce qu'a annoncé Ricardo Villar, le président de la commission du développement, qui a souligné l'importance d'un tel média, en particulier dans les zones éloignées du centre urbain. La radio municipale, la première de la localité, fonctionne sur la fréquence de 101,9 MHz et porte le nom de La Roca, inspiré par la composante principale des collines qui entourent cette communauté rurale. La radio a déjà une programmation entièrement composée de productions locales et avec la transmission d'émissions en direct, et met en avant l'espace Message à la communauté, qui est un segment très attendu et écouté par tous les auditeurs. Allons maintenant vous présenter une nouvelle d'Uruguay qui intéressera les philatélistes qui collectionnent des timbres faisant allusion à la radiodiffusion et aux communications, ou pour les amateurs de radio qui collectionnent des timbres émis en relation avec ce pays et le monde des communications radio. Sous le slogan « Promouvoir le développement des communications et les droits des utilisateurs », le timbre commémoratif du 20e anniversaire de la création de l'unité de régulation des communications a été présenté le 23 février lors d'une cérémonie qui s'est tenue au siège de l'Administration nationale des postes. Le ministre de l'Industrie, Omar Paganini, a assuré que l'institution est un régulateur d'un monde en révolution. La présidente de l'URSSEC, Mercedes Aramendia, a souligné que l'organisme se fixe comme objectif l'accès aux services de communication pour les habitants de tout le pays. Elle a remercié les fonctionnaires, les prestataires de services et les utilisateurs qui acceptent les nouveaux changements et contribuent à continuer à s'améliorer. Pour sa part, le ministre Paganini a déclaré que l'URSSEC est le régulateur d'un monde en révolution et qu'elle joue le rôle de guider la transformation en prenant soin de certaines bases fondamentales qui sont les droits des personnes et des entreprises, mais aussi de dynamiser et de permettre l'innovation. Dans ce contexte, un timbre commémoratif spécial de la poste uruguayenne a été lancé. Le gouvernement de Bolivie et la centrale ouvrière bolivienne, la COB, ont convenu que les stations de radio qui dépendent des organisations de travailleurs s'éloignent au projet d'enseignement à distance dans le pays, dans l'idée de profiter aux étudiants et, par conséquent, d'éviter les sources possibles de contagion face à la pandémie de coronavirus. À ce stade, la présence des radios des mines et des usines n'est pas moins importante. Nous voulons remercier les enseignants des zones rurales de nous avoir offert les espaces radio pour atteindre nos enfants, a déclaré le ministre de l'Éducation, Adrián Quelca. Le 1er février, la Bolivie a lancé une plateforme virtuelle par laquelle les cours sont diffusés sous différents formats, radio, télévision, et les textes officiels sont diffusés pour renforcer la modalité d'enseignement à distance. Aujourd'hui, les stations de radio des organisations syndicales inscrites à la COB se joignent à cette initiative encadrée dans le projet Bolivia Educa. Et ainsi se termine ce programme en français de RAE, l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.